Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Iga Świątek, Simona Halep, Isao Ratibus, toutes ces sportives ont un point commun, elles ont été contrôlées positives à une substance interdite et ont demandé de l'aide au professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Son but, prouver qu'un athlète a bien été contaminé à l'insu de son plein gré. Anthony Reich, notre journaliste RMC Sport, l'a rencontré vendredi dans son laboratoire pendant plusieurs heures.
L'immeuble en briques ne paye pas de mine à première vue, pourtant au sein de l'hôpital Raymond Poincaré à PHP de Garches, le service de toxicologie du professeur Jean-Claude Alvarez s'est forgé une solide réputation dans le monde de l'antidopage. Depuis l'affaire Simona Halep, les athlètes se bousculent à la porte du professeur.
Mon travail, il est simple. Tenter de prouver qu'un sportif n'est pas dopé. C'est-à-dire qu'il a été positif à une substance, mais sans l'avoir pris de lui-même. On n'est pas dans un cadre de dopage, on est dans un cadre de contamination. Aujourd'hui, on est dans un environnement où nous sommes tous contaminés ou contaminables. L'eau du robinet peut être contaminée par des médicaments, vous ne le savez pas.
La spécialité du professeur Alvarez qui a fait la différence dans tous ces dossiers, l'analyse capillaire. C'est la première étape du processus pour prouver si un athlète est dopé ou contaminé. Test réalisé à l'aide de spectromètres de masse, d'énormes caissons à la pointe de la technologie qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros et qui analysent le cheveu molécule par molécule.
Quand vous prenez une substance, que ce soit dans un cadre de dopage ou de contamination, elle va rester dans le sang à peu près 24 heures en moyenne. 2-3 jours dans vos urines. Ça va rester dans les cheveux tant que vous ne vous coupez pas les cheveux. Sachant que la vitesse de pousse du cheveu, c'est 1 cm par mois. Si vous avez des cheveux de 5-6 cm, c'est 5-6 mois d'antériorité. Je pourrais dire tout ce que vous avez pris dans les 6 mois qui précèdent.
Si la concentration est infime ou beaucoup plus faible qu'une quantité synonyme de dopage, l'athlète apporte alors tous les produits qu'il prend au quotidien. Compléments alimentaires, crème de jour, de nuit, baume à lèvres, médicaments, etc. Dans le dossier Świątek, cette analyse a révélé une absence de triméthazidine dans les cheveux de la Polonaise alors qu'elle avait été contrôlée positive dans ses urines. Une fois le produit détecté avec la molécule concernée par le contrôle antidopage, l'athlète va acheter une boîte neuve du produit. Par exemple, la numéro 2 mondiale s'est rendue dans la pharmacie où elle avait acheté sa boîte de mélatonine. Elle a pu en prendre une autre issue du même lot. C'est très important pour le contrôle. Le toxicologue analyse alors cette nouvelle boîte et en met une de côté pour une contre-expertise.
Si je trouve également le produit, ça prouve bien que ce n'est pas un problème de sportif. C'est le produit qui est contaminé avec des très faibles doses, suffisantes pour avoir un résultat positif dans les urines, mais pas suffisant pour avoir de l'effet. Ça ne vous fait pas gagner des matchs. Les microdoses de PO, ça permet d'avoir des effets. Là, on n'est pas sur de l'EPO. On est sur des produits qui ne marchent pas avec des microdoses.
Place alors à l'ultime étape du processus, la reproduction des faits. Dans l'affaire Isao Ratibus, contrôlée positive à l'ostarine, le professeur fait rejouer une journée complète à la championne du monde d'escrime 2022 et son compagnon avec les mêmes timings et les mêmes routines de couple que lors de la journée du contrôle antidopage positif concerné de l'escrimeuse.
J'ai été chez eux, j'ai même testé la brosse des cheveux d'Isaora. Il y en avait partout. Ils étaient dans un milieu de contamination. Moi, j'ai utilisé le flacon que le compagnon a utilisé. Je l'ai pris dans les mains. Je me suis fait un dosage de mes ongles. J'étais positif.
Au test capillaire, Isaora Tibus avait 2 picogrammes d'ostarine détectée. Son compagnon, 65. Soit un niveau conforme à des doses de dopage ou en tout cas des prises régulières, en l'occurrence pour le spécialiste. Le premier jugement a conclu à une relaxe pour contamination par fluide. L'Agence mondiale antidopage a fait appel de cette décision. Aujourd'hui, l'analyse capillaire utilisée par le professeur Alvarez n'est pas prise en compte dans les procédures de l'Agence mondiale antidopage qui s'appuie uniquement sur les analyses sanguines et urinaires.
Et voilà, reportage passionnant d'Anthony Reich à l'hôpital à PHP, Raymond Poincaré de Garches. Comment vous réagissez à ces propos de ce professeur? Est-ce qu'il essaye de démontrer, parce que c'est évidemment dans l'air du temps, Isao Ratibus, l'escrimeuse, on en a beaucoup parlé juste avant les Jeux Olympiques, il y a le cas en ce moment qui nous préoccupe, Yannick Sinner. Comment vous réagissez? Comment ça peut vous interpeller? C'est intéressant de vous avoir, Marc Madiou et Jérôme Pinault, sur ce dossier-là. Marc?
C'est à la fois bien et pas bien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse utiliser à charge et à décharge les travaux de ce professeur. les cheveux. Tu as bien précisé que les cheveux n'étaient pas retenus dans la lutte antidopage. Donc déjà là, il y a un souci. Je pense que si on pouvait intégrer l'utilisation du contrôle sur les cheveux, ce serait plutôt pas mal. Après, moi, je suis pas suffisamment spécialiste, ni médecin, ni chercheur pour savoir le vrai du faux par rapport à ce qui a été évoqué. Ça paraît assez surprenant. Néanmoins, dans la défense d'un athlète, il est logique qu'on puisse utiliser ses moyens de défense, mais il faudrait aussi qu'on puisse utiliser ses moyens pour prouver que l'athlète a été dopé. Moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est qu'on ait les deux côtés du sujet, c'est-à-dire qu'on soit capable de dire. Il y a eu maldonne sur le produit et c'est par inadvertance ou par méconnaissance où il y a pas de faute de la part de l'athlète, mais en même temps qu'on soit capable de dire là il y a pas d'ambiguïté, il est vraiment positif. Et je pense qu'on a besoin des deux situations et des qualités et des capacités de ce professeur pour aller dans les deux directions et pas dans une seule qui est celle de disculper l'athlète positif.
Mais la lutte antidopage, on a appris quelque chose ces dernières années. On était parti sur le cas de un athlète est pris la main dans le pot de confiture, il est dopé, il est positif, voilà, terminé. Alors que là, de plus en plus, il y a des histoires de contamination, c'est-à-dire qu'il y a le massage de Yannick Sinner, il y a le baiser entre Isaor Atibus et son compagnon, et en fait ça peut provoquer un résultat positif chez l'athlète. Et ces contaminations, on n'avait pas forcément l'habitude d'en parler. C'est-à-dire que quand un athlète était positif, on dit ok, c'est réglé. Il est dopé, terminé. Alors que là, on a des moyens de prouver qu'il y a vraiment contamination. Ça semble une avancée incroyable, en tout cas à mes yeux.
Oui, mais est-ce que justement avec cette méthode, on peut pas arriver à prouver que même les dopés sont innocents? C'est là où il faut faire attention.
Donc
quand
ce
même
soit
au truc.
À charge et à décharge.
Il faut que Monsieur Alvarez, le professeur Alvarez, soit honnête dans son truc. Si on lui présente quelqu'un qui est dopé, qu'est-ce qu'il va faire?
Il rend le dossier, bah non, c'est-à-dire que c'est l'avocat qui arrive, il dit moi je m'occupe pas de votre client.
D'accord.
Parce qu'il y a trop de suspicions.
D'accord. Bon, là, dans ce cas-là.
Vas-y, Pascal.
Ouais, en fait, si j'ai bien compris ce que disait le professeur, en fait, il est capable de déterminer au moyen des tests capillaires, s'il y a uniquement contamination et non dopage. Donc ça me semble important. Je comprends pas pourquoi les organismes de référence qui sont chargés de contrôler le dopage dans le sport, pourquoi ils n'utilisent pas ces méthodes, ces prélevés capillaires. Si ce qu'il nous dit est réel, je vois pas pourquoi il dirait une bêtise, ce professeur. Il le dit clairement, c'est le fait qu'il y ait des quantités infimes dans les cheveux et le fait qu'on puisse les retrouver 6 mois après, il parle des cheveux qui poussent d'un centimètre par mois, devrait suffire à dire si c'est une contamination ou du dopage. Pourquoi donc ils ne les utilisent pas pour les contrôles dans le sport?
Ben oui, c'est peut-être à la main d'intégrer le professeur Alvarez.
À qui profite
dans le contrôle dans le système, parce dans que, le système de l'antidopage.
Si ce système coûte centaines de milliers d'euros, c'est ce qu'il a dit, le caisson, pour analyser et qu'on arrive à retracer les 6 mois d'activité de l'athlète.
Oui.
Donc c'est rien. Donc effectivement, oui, cette méthode, peanuts, on la découvre pas là. Si on avait voulu et s'il y avait une réelle volonté de lutter complètement.
On sait depuis toujours que les cheveux sont un vrai marqueur.
Être marqué
tout se retrouve là-dedans.
Parce qu'il y a eu une période où ça a été une méthode à l'essai. Je peux te dire que si les méthodes étaient en place, il y aura un paquet de chauves et de cheveux peroxydés en peloton, hein, ça c'est sûr. Ricardo Rico avait été pris positif après analyse capillaire. Sur cette année-là, sur le Tour de France, il y avait des prélèvements capillaires. Ah oui. Je me rappelle, à l'époque, j'avais des cheveux, j'avais été prélevé. Donc ça a été fait. Pourquoi il n'y a pas cette méthode mise en place plus en profondeur? Posons-nous la question et posons-leur la question. Oui. L'AMA n'utilise pas cela. L'AMA est payée pour lutter contre le dopage dans le sport. L'Agence mondiale. Et elle n'a pas la méthode la plus élaborée pour retracer les 6 derniers mois d'un athlète. Il y a quand même des questions à se poser.
Pour répondre à ta question, Christophe, sachez, on s'est renseigné, c'est Anthony Reich qui m'envoie ce message. Le professeur Alvarez a été sollicité par un athlète récemment qui était dopé. Il a rendu son rapport à l'avocat. Il a décidé de ne pas justement approfondir. Évidemment, on ne connaît pas le nom. Et heureusement, il y a la protection du patient.
Parce qu'il était dopé.
Mais parce que pour lui, ses conclusions, c'est qu'il était dopé. Donc, il n'a pas voulu aller plus loin.
Est-ce qu'il y a un garçon aujourd'hui comme Sinner, par exemple, qui va être convoqué par la main dans quelques temps, pourrait faire appel au professeur Alvarez pour l'innocenter.
Si c'est pas dopé,
pour avoir lu les derniers papiers du docteur Alvarez, il est assez catégorique sur le cas Sinner.
Ah,
donc je pense que Yannick Sinner,
c'est-à-dire
pour Simona Alep, il l'a blanchi, et pour Sinner, il pense qu'il y a eu, oui.
Vous savez quoi, les copains? C'est la magie du direct sur RMC. Le professeur Alvarez veut intervenir dans cette émission. Il a écouté le reportage, génial, il nous a entendu, et il veut intervenir.
On a plein de questions à lui poser.
Donc, on va marquer une courte pause et on l'invitera aussi dans le studio RMC pour évidemment approfondir cette histoire et ses recherches. On se retrouve dans quelques instants avec le professeur Alvarez. Et promis, on voulait parler de Jonas Vingegaard. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. On va décaler un peu le conducteur tranquillement. Allez, à tout de suite avec le professeur.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45, les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madio, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Je vous rappelle cette information, l'information de la matinée. Hugo Humbert éliminé des huitièmes de finale de l'Open d'Australie, battu en 4-7 par Sacha Zverev. À partir de 11h, restez bien avec nous, un invité exceptionnel, Yoann Richaume, deuxième du Vendée Globe. Il sera avec nous dans le studio RMC. Les GG ont beaucoup de questions à lui poser. Il y a quelques instants, nous parlions du professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie à l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. Nous parlions de ses recherches, de ses conclusions pour innocenter des athlètes qui ont été convaincus de dopage, en tout cas contrôlés positifs. Ça a été le cas d'Igaziantec, Simona Alep ou encore Isao Ratibus, notre française, notre escrimeuse. Le professeur nous appelle et veut réagir en direct. Bonjour monsieur Alvarez.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous avoir écoutés religieusement et vous vouliez intervenir. On a des questions évidemment à vous poser, mais déjà, donnez-nous un premier sentiment là de ce que vous avez entendu.
Bah, écoutez, j'ai voulu intervenir parce qu'il y a eu un certain nombre de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Donc voilà, la première de ces questions, alors je ne sais pas si on attend avant de me la poser.
Allez-y.
Est-ce que je participe uniquement à décharge des sportifs ou à charge? Non. Moi, je suis expert judiciaire, donc je fais du médico-légal. Je travaille donc pour la justice essentiellement et je travaille à charge ou à décharge.
D'accord.
C'est exactement pareil. C'est ce que j'ai expliqué, ça a été dit pas plus tard que cette semaine. J'ai eu une analyse de cheveux à faire pour un sportif. Si vous voulez, je débute toujours par l'analyse capillaire. Si les cheveux me montrent que il y a rien dans les cheveux ou il y a des microdoses qui correspondent possiblement à une contamination, je vais plus loin. Je vais essayer de trouver d'où vient cette contamination. On doit prouver d'où vient la contamination. Quand j'ai des concentrations dans les cheveux qui, pour moi, sont synonymes de dopage, moi, je donne mon résultat à l'avocat et je lui dis, voilà, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin parce que pour moi, c'est du dopage. Je suis contre le dopage, qu'on soit bien.
Oui, on est d'accord. Ça, on avait bien compris.
Voilà, je suis pharmacologue et le dopage, il faut lutter contre le dopage. Et il faut sanctionner sévèrement.
Alors par exemple, un cas pratique, il y a un athlète qui vient vous voir et vous dit bon voilà, j'ai été contrôlé positif, c'est une contamination, alors un baiser, un masseur qui soigne, voilà. Et donc vous après, vous prenez ce dossier. Quoi qu'il arrive, vous prenez le dossier et ensuite vous jugez.
Absolument, je vais tester, je vais regarder ce qu'ils ont dans les cheveux et à partir de là, ou alors on sait déjà, il me dit ben, je pense que c'est ce produit-là qui est contaminé, je vais l'analyser. Mais la plupart du temps, je commence toujours par l'analyse capillaire, qui me permet, comme vous l'avez expliqué, de remonter plusieurs mois avant. Quand on fait du dopage, on ne prend pas une dose. Ça ne sert à rien, une dose. On en prend plusieurs fois, plusieurs des doses, plusieurs jours. Et donc, on en a plein les cheveux, ça s'accumule. Le cheveu, c'est cumulatif, contrairement au sang, à l'urine. Donc, je peux dire si c'est quelqu'un qui en prend régulièrement ou si c'est quelqu'un qui en a pris une fois ou quelqu'un, il risque même de ne pas en avoir. Simona Alep, par exemple, elle a une concentration 200 fois plus faible que quelqu'un qui prend ce traitement pour avoir un effet. La seule patiente traitée en France par le Roxadusa, j'étais la prélevée. J'ai eu sa mèche de cheveux. J'ai analysé et Simona Alep, elle avait 200 fois moins. C'est très clair, ce n'est pas du dopage, c'est de la contamination.
Ok,
professeur, est-ce que votre analyse est à la portée de toutes les bourses aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on assiste justement à un truc à deux vitesses, c'est-à-dire les athlètes qui ont pas mal d'argent pourraient faire appel à vos services et les autres, les smicards du sport, eh bien resteraient du mauvais côté de la route, quoi, quelque part. Ça coûte cher de faire appel à vos services, de vos analyses?
Écoutez, la question est tout à fait exacte. Hein. Il y a une sélection en fonction des capacités à payer sa défense, mais pas tellement au niveau de l'analyse. Moi, je suis universitaire, je suis à l'hôpital, on ne prend pas si cher que ça, mais il y a les avocats derrière. Vous êtes obligé de prendre un certain nombre d'avocats pour vous défendre. Et ça coûte très très cher, bien plus cher que mes analyses, si je puis me permettre. Donc voilà, c'est clair que oui, il y a une sélection par l'argent.
Il y a une question qui évidemment, c'est peut-être Marc qui va la poser, parce que moi j'en ai une qui me vient tout de suite à l'idée. Vas-y Marc, j'espère que c'est celle-là. Hein.
Professeur, ce que vous nous expliquez est extrêmement intéressant. Moi j'aurais deux, trois petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par l'UCI et le président Lapartient, l'AMA ou l'ITA pour faire avancer la lutte anti-dopage à travers notamment l'analyse des cheveux? Parce que d'après ce que vous nous dites, on retrouve sur des plus longues durées et de façon catégorique la présence d'éventuels produits dans les cheveux. Pourquoi cette méthode n'est pas utilisée dans la lutte anti-dopage au quotidien?
Et aujourd'hui, on recherche dans les urines ou dans le sang, alors que les cheveux, on comprend avec
c'est
le professeur que...
Le professeur vient de le dire.
Alors, si vous voulez, non, je ne suis pas contacté, vous savez...
Si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone du président Lapartient, je vous le donne.
Non, mais c'est pas la peine. Ils savent où je suis, nos résultats les embêtent. Il y a ce dogme de l'AMA que je n'arrive toujours pas à comprendre. Vous êtes positif dans les urines, vous êtes coupable, vous êtes dopé. Non, aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus vrai. Je veux dire, il faut attraper les vrais dopés. Alors... je pense que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de positifs. Donc, quand ils en ont un, ils veulent plus le lâcher. Mais je suis désolé. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui se dope réellement et celui-là, il faut le sanctionner, mais lourdement, très lourdement. Et quelqu'un qui ne sait pas qu'il s'est contaminé, donc celui-là, je suis désolé. Quand on apporte la preuve qu'il est contaminé, il faut s'arrêter là. L'affaire Timona Halep, 18 mois de procédure pour finalement ne prendre que 9 mois de sanction, mais elle est restée arrêtée 18 mois parce que la procédure a duré 18 mois. On s'est acharné contre Simona. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Vous voyez, donc non, ils ne me contactent pas, mais ils savent ce que l'on fait. Et les analyses capillaires sont reconnues en justice, sont reconnues en clinique. Moi, j'en fais beaucoup pour les médecins. Et le dopage, je ne veux pas en entendre parler. Alors,
c'est
pas quelque chose qui peut remplacer le sang et l'urine. Hein. Le sang et l'urine, faudra
toujours... Non, c'est en complément.
En complément, exactement. Et on se bat pour que ce soit reconnu comme un complément. Alors, heureusement, quand on va au TAS, quand on va au tribunal, le tribunal l'accepte. Ça, voilà.
Alors,
Jérôme Pinon.
C'était ma deuxième question. Parce que moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, vous pouvez affirmer avec vos études que, finalement, l'Agence mondiale antidopage, le patron de l'antidopage, ne veut pas aller plus loin dans ses recherches et ne veut pas utiliser les méthodes modernes? Et ma deuxième question, c'était effectivement, si on va plus loin, et là je pense très fortement à Franck Bonamour qui manquait de moyens pour aller plus loin, est-ce que le TAS reconnaît vos travaux? Ça, c'est important, parce que oui. Ce que tu es en train de nous dire, le professeur Alvarez, c'est un scoop, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron de l'antidopage, la police de l'antidopage, n'utilise pas le meilleur moyen de découvrir qui sont les dopés. Donc, on n'a pas envie d'en avoir. Donc, le sport va bien. Évidemment, on n'aura plus de dopés puisqu'on n'utilise plus les méthodes modernes. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que le tribunal arbitral du sport, qui est l'éminence suprême pour juger, reconnaît les travaux. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai dysfonctionnement entre les différents arcanes. Et le professeur nous apporte sa première réponse, c'est qu'on ne fait pas tout pour choper les dopés.
Réaction du professeur Alvarez.
Bah, écoutez, c'est exactement ça. On essaie de dénoncer ce manque de je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas utiliser les cheveux. Quand on apporte la preuve par les cheveux, ils ne veulent pas en entendre parler. Heureusement, comme vous venez de le dire, que le tribunal arbitral du sport à Lausanne, quand on y va, eux, ils prennent en compte nos résultats capillaires parce qu'ils veulent dire quelque chose. Quelqu'un qui en a très peu, Iga Swiatek. Elle a zéro dans ses cheveux. Il n'y a rien dans ses cheveux. Quelqu'un qui prend de l'ostarine ou de la trimétazidine pour se doper, il en a plein les cheveux. Elle n'a pas de molécules dans les cheveux. Donc vous voyez, c'est très clair, c'est de la contamination. En plus, on apporte la preuve. C'est comprimé de mélatonine vendu en pharmacie. parce que là, c'est pareil. Quand vous achetez sur Internet, vous êtes responsable. Là, on l'achète en pharmacie. Comment vous voulez qu'elle sache qu'en achetant des comprimés en pharmacie, ils sont contaminés? C'est juste impossible.
Et d'ailleurs, elle je crois que dans cette histoire, oui, elle a pris un mois de suspension, je crois que dans cette normal. Histoire en plus, vous lui avez dit, il faut vite aller racheter ce médicament en pharmacie. Oui. Il ne restait qu'une seule boîte du lot, heureusement pour elle. Elle a réussi à l'acheter et à vous l'envoyer pour que vous puissiez faire des analyses. Justement, vous parlez d'Igaziantec, on a envie forcément de vous parler d'Yannick Sinner. Alors, vous ne vous occupez pas de lui, évidemment.
Il n'est pas venu
en
vous
tout
voir.
En tout cas, il n'est pas venu.
Il n'est pas venu vous voir.
Il n'est pas venu vous voir. Quel est votre regard, même si vous n'avez pas les analyses, évidemment, quel est votre regard sur sa situation? Est-ce que vraisemblablement
est-ce que vous
on est dans
le conseiller de le faire, ouais.
On est dans le même cas aussi que Svantec ou Simona Halep.
Oui, tout à fait. Alors lui, c'est du Clostebol. Le passage transcutané du Clostebol, ça a été décrit, ça existe réellement. Vous avez du Clostebol sur la main, vous serrez la main d'un sportif, il peut être positif.
Oui.
Pour vous dire à quel point ça peut passer. Hein. Donc oui, ce qui décrit, c'est tout à fait possible. Mais je me suis pas occupé de cette affaire. Mais moi, si je m'en étais occupé, il y aurait déjà eu une analyse capillaire. Que je sache, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu, et je vous garantis, j'aurais fait exactement comme j'ai fait avec Yves Aurin, j'aurais reproduit la scène. C'est-à-dire que j'aurais mis de la crème sur les mains de son kiné, il aurait recommencé à le masser pendant plusieurs jours, puisque le massage, c'était plusieurs jours, il a eu deux tests positifs, et j'aurais fait des prélèvements urinaires chez Sinner tous les jours, enfin, en permanence. Exactement comme j'ai fait sur Mohamed Oufal.
Donc,
Mohamed Oufal, j'ai repris la même boîte, je l'ai donné à quelqu'un, un volontaire, je vais vous dire, le volontaire c'était mon fils. Maintenant je peux le dire, c'était mon fils. Il a repris exactement la même dose que Mohamed Oufal, j'avais exactement la même concentration dans les urines de mon fils que celle qui a été retrouvée chez Mohamed Oufal. Donc voilà, on prouve qu'en prenant cette boîte que j'ai achetée neuve, hein, on a exactement la même chose que Mohamed.
Donc vous nous dites aujourd'hui, professeur, et je suis désolé, on va devoir s'arrêter là, mais promis, on va vous inviter dans le studio RMC parce que c'est passionnant. Vous nous dites qu'aujourd'hui, avec Yannick Sinner, tant qu'on n'a pas de prélèvement capillaire, et maintenant c'est certainement trop tard, on peut pas l'affirmer. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, et malheureusement on n'a pas ces études, on peut pas dire si dopé ou pas dopé, ou si c'est une contamination ou pas une contamination, et ça c'est extrêmement intéressant. Professeur, vous êtes d'accord pour venir prochainement dans les grandes gueules du sport avec nous dans le studio?
Oui, bien sûr. Juste un petit complément. Sinner, c'est pas encore trop tard. Ah. S'il a suffisamment de centimètres pour remonter, c'était au mois d'avril, je crois. Donc, il faudrait qu'il ait, 8 centimètres de cheveux. Je suis pas sûr qu'il les ait.
Ah oui, pas sûr.
On pourrait remonter jusqu'au moment.
Donc, vous conseillez en quelque sorte aux sportifs de haut niveau de se laisser pousser les cheveux comme les hippies.
Ou de se les couper court.
Voilà, les avoir très très longs pour arriver à prouver un jour qu'ils n'étaient pas.
Merci. Merci, professeur Alvarez. On vous envoie rapidement une invitation au directeur du service toxicologie à l'hôpital APHP, Raymond Poincaré de Garches. Merci d'avoir appelé les grandes gueules du sport.